Au bout du fil, on a avec nous le chef du Bloc québécois, M. Yves-François Blanchet. Monsieur Blanchet, ça va bien?
Oui, ça va bien, et vous?
Oui, ça va bien. Est-ce que vous passez un bel été?
Je passe un très bel été, passablement occupé, un peu plus que ce que j'avais prévu, parce qu'il y a beaucoup d'actions en politique, en plus de la tournée, mais c'est un très bel été.
Good. Crise du bois d'œuvre, présentement, ça affecte énormément le Québec, des scieries qui ont fermé, notamment la scierie à Saint-Michel. Plusieurs auditeurs qui m'ont écrit depuis le début de la journée en disant « Si le Bloc québécois protégeait si bien les intérêts du Québec, on n'en serait pas là. » Vous répondez quoi à nos auditeurs?
Ben, on va le dire à vos auditeurs tout de go que c'est pas parfait ce que le premier ministre a annoncé hier, notamment au niveau du modèle de soutien aux liquidités, parce que les entreprises forestières en général, ils ont des banques, ils sont capables, ils sont solvables, ils peuvent aller emprunter. L'idée, c'est que les compagnies forestières de l'ensemble du Canada ont une créance. Les Américains leur doivent 10 milliards de dollars, puis le 700 millions compte pour assez peu. Sauf que le principe de donner des liquidités, le principe de favoriser la transformation, le principe de travailler au développement de nouveaux marchés, c'est les propositions du Bloc québécois depuis le début de la campagne électorale. Mais on a eu une campagne électorale où ce qui venait pas de M. Trump ou de M. Carney était bien des fois pour couvrir dans l'appareil média. Fait que c'est, et tant mieux, c'est beaucoup des demandes du Bloc. Sauf que, et si on ne l'avait pas fait, ça serait probablement pas produit parce qu'il ne parlait pas de la forêt jusque-là. Sauf que le modèle pour fournir des liquidités aux entreprises n'est pas très approprié dans la réalité des entreprises. Là, s'il faut qu'ils payent les mêmes intérêts que normalement, ça leur donne pas grand-chose.
Les entreprises dans l'industrie forestière ont des problèmes de coûts d'approvisionnement. Elles ont des problèmes aussi de développement de marché. Et c'est quoi exactement, concrètement, vos propositions pour les aider en ce sens?
C'est les entreprises qui développent leur propre modèle d'affaires. Je prends, par exemple, le chantier Chibougamau, qui a fait une deuxième, troisième transformation en développement du logement modulaire, qui est très approprié dans les circonstances actuelles. Logement étudiant, logement social, baisser la pression sur le parc résidentiel, réduire en faisant ça la spéculation sur l'unifamilial. C'est des utilisations de ressources de la forêt qu'il faut encourager. Bois-Saco, sur la Côte-Nord, quand il y a de la matière ligneuse qui rentre, il n'y a rien qui sort de l'usine sans avoir été transformé. Il n'y a pas de perte. Il y a des usages en énergie, des usages en transformation pour des matériaux de construction. Il y a le bon vieux 2x4. Il y a un ensemble de possibilités, de panneaux, de toutes sortes de trucs qu'on peut faire avec la ressource forestière. Ça demande un peu de recherche, ça demande du développement de marché. Mais si tu transformes la ressource, tu es moins dépendant de ton seul marché américain qui achète du 2x4 sur lequel, présentement, il y a un tarif de 34% qui est appliqué.
Mark Carney annonce 700 millions en soutien, plus un autre 500 millions en subvention. Qu'est-ce que vous auriez fait différent de Mark Carney pour soutenir l'industrie du bois d'œuvre?
Sur le 700 millions, c'est des garanties de prêt. Donc, a priori, ça ne coûte rien au gouvernement, sauf si l'entreprise fait faillite.
Oui.
Ce qui risque peu d'arriver. Fait qu'il n'y a pas de raison de mettre un plafond de 700 millions. Il se pourrait que ce ne soit pas suffisant. Et si on se rend compte que ce n'est pas suffisant, j'imagine qu'il sera possible de le convaincre de faire davantage. 500 millions pour la transformation, c'est sur l'ensemble du territoire canadien. Donc, c'est relatif. On ne crache pas sur l'argent. Mmh. C'est relativement peu, mais le principe d'encourager les entreprises à faire de la recherche, de l'innovation, développer des nouveaux produits, un espèce de transfert de main-d'œuvre de la forêt à la transformation avec de la valeur ajoutée puis des nouveaux marchés, c'est l'approche qu'on proposait. Fait que je ne lui demande pas de faire terriblement différent. Dans le cas des liquidités, j'aurais fait ça différemment un peu.
Le 700 millions, vous dites, j'aurais pas mis de plafond, mais pourtant, dans la COVID, il y a eu justement des prêts comme ça qui ont été faits et il y a énormément, notamment, d'agriculteurs qui n'ont pas été capables de rembourser ces prêts-là. Donc, moi, je vois un peu la même situation se produire. On va prêter de l'argent à des compagnies qui œuvrent dans le bois d'œuvre, mais malheureusement pour eux, ne développeront pas le marché, ne seront pas capables de rembourser.
On n'est pas dans le même contexte que des petites entreprises dans le contexte de la pandémie où on avait fermé l'économie québécoise et en grande partie l'économie canadienne. Ces entreprises-là sont encore opérationnelles, elles sont en général solvables. Dans bien des cas, elles appartiennent à des multinationales, donc l'environnement économique où elles évoluent est assez différent. C'est pas le gouvernement qui prête l'argent, c'est des garanties de prêt. Les entreprises vont en banque, puis ils empruntent de l'argent, puis la banque fait cautionner le prêt par le gouvernement. Il y en a des entreprises à qui le gouvernement a déjà dit ça et qui ont dit « je le veux même pas » parce que celle-ci ou celle-là parmi les entreprises disait « j'en ai pas besoin, je suis capable déjà d'aller à la banque et de faire un emprunt ». Donc le gouvernement donne une garantie de prêt qui ne lui coûtera rien, sauf si l'entreprise devient insolvable. On n'en est vraiment pas là, puis le gouvernement ne donnerait pas d'argent à une entreprise dont il pense qu'elle va fermer de toute façon.
Le conflit sur le bois d'œuvre dure depuis 2017. C'est pas une situation nouvelle là, suite à l'élection de Donald Trump. On a des enjeux sur le bois d'œuvre depuis 2017 avec l'administration américaine. À part ouvrir le portefeuille des contribuables puis offrir des garanties de prêt puis donner des subventions à l'industrie forestière, est-ce que vous avez d'autres propositions pour soutenir cette industrie? Parce que là, c'est un plaster sur le bobo.
Vous êtes un peu dans la caricature. Je vous ai pas appelé pour m'assister avec vous puis me faire faire des reproches sur ce que le gouvernement ou moi on pense. Les tarifs n'étaient pas des tarifs avant que M. Trump impose des tarifs. C'était ce qu'il appelle des droits compensatoires. Mm-hmm. Les droits compensatoires, c'est la prétention des producteurs américains qu'il y a du dumping de bois en bas du coût de production qui se fait à partir du Canada et du Québec. Les autres disent que le bois coupé dans la forêt publique au Québec, c'est l'équivalent d'une subvention, ce qui n'est pas le cas parce que ça va aux enchères. Donc, c'est le marché qui détermine la valeur des droits de coupe que les entreprises vont utiliser par la suite. Donc, c'est pas le même contexte. Le président Trump en a rajouté par-dessus, aussi sous la forme de droits compensatoires, mais également sous la forme de menaces de tarifs. Et ça, c'est pas encore très clair comment ça va se passer. Le but étant de satisfaire l'industrie forestière américaine, mais elle-même va pas vouloir que ça aille trop loin du côté de M. Trump parce que ça a un effet inflationniste extrêmement important. La production de bois américaine ne suffit pas à la demande américaine. Donc, il faut qu'il y ait du bois canadien et québécois qui se rende aux États-Unis. S'il est frappé d'un tarif, il coûte beaucoup plus cher à l'acheteur américain parce que normalement, et jusqu'à tout récemment, ça marchait comme ça, le tarif était ajouté au prix de vente du bois, puis ça se trouve être l'acheteur américain qui paye le tarif. Avec l'impact sur l'inflation, sur le coût des maisons aux États-Unis, c'est dommageable pour l'économie américaine comme politique.
Pour rappel, on parle avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. On parle notamment de la crise du bois d'œuvre. Monsieur Blanchet, l'industrie automobile au Canada, l'aluminium, l'acier, là, le cuivre, le bois d'œuvre est mis à mal et le Québec continue toujours de défendre la gestion de l'offre. Est-ce qu'on privilégie nos producteurs laitiers ou nos agriculteurs au détriment, justement, d'autres domaines économiques très importants au Québec? Et je pense à l'aluminium et également le bois d'œuvre.
D'abord, le raisonnement n'est pas exact si on dit « Ah, mais non, on va sacrifier la gestion d'offre pour qu'il lâche la grappe à l'aluminium. » Ça se produit simplement pas comme ça. Ce qui est supposé se produire dans un contexte où une partie, dans un traité commercial, les États-Unis disent, puis moi je le disais dès le début, si les Américains trouvent que le traité ne les sert pas bien, il est prévu pour être négocié de toute façon à l'horizon de 2026. Là, ils mettent leur doléance sur la table et on négocie quelque chose.
Mais seriez-vous prêt à ouvrir la gestion de l'offre s'ils mettent cette doléance-là sur la table?
Les producteurs agricoles américains ont eux-mêmes dit au président des États-Unis la semaine passée qu'ils n'en avaient pas contre la gestion de l'offre canadienne. Puis il faut aussi savoir que les États américains, pas le gouvernement central américain. Les États américains subventionnent énormément l'agriculture aux États-Unis dans un système qui est différent du nôtre. Mais c'est aussi une agriculture subventionnée qui a la volonté d'occuper d'autres marchés. Mais de dire on sacrifie les régions du Québec et la gestion de l'offre pour favoriser, très hypothétiquement, parce qu'il n'y a rien qui dit que ça se passe quand même, la forêt ou l'aluminium, c'est pas une bonne approche. Tu déshabilles pas Pierre pour habiller Paul. Tu fais une entente commerciale qui pourrait aboutir avec des tarifs. Ce que je reproche à M. Carney, d'ailleurs, c'est pas d'admettre qu'il pourrait rester certains tarifs lorsqu'il aura négocié quelque chose. C'est d'avoir laissé entendre durant la campagne électorale, puis après la campagne électorale, qu'il allait régler ça, puis il n'y en aurait pas de tarifs. Or, il a échoué à toutes les échéances qu'il s'était lui-même fixé.
Sur la gestion de l'offre, il y a plusieurs économistes et le professeur Sylvain Charlebois de l'Université Dalhousie qui soutiennent la gestion de l'offre, mais qui estiment qu'elle doit être réformée pour gagner en transparence et en compétitivité. Est-ce que vous êtes au moins ouvert à l'idée d'une modernisation interne du système sur la gestion de l'offre?
Si quelqu'un veut améliorer un système, quel qu'il soit, on ne peut pas être contre ça. Cela dit, Sylvain Charlebois n'est pas quelqu'un qui est pour la gestion de l'offre, veut la modifier. Il est résolument contre la gestion de l'offre. C'est même plus de la recherche. Dans son cas, il milite contre le principe de la gestion de l'offre. Et il y a un ensemble d'économistes qui sont pour, mais ces gens-là peuvent débattre en effet. Et s'il y a des propositions valables qui sont amenées, bien, l'État qui régit ce système-là peut en effet le modifier. Il y a une différence entre décider à l'intérieur du territoire qu'on veut améliorer le système de la gestion de l'offre et se faire imposer de casser la gestion de l'offre par une puissance étrangère qui rentre à l'intérieur de nos affaires.
Je termine l'entrevue, M. Blanchet, avec cette question-ci. Est-ce qu'on aurait dû imiter la stratégie du Mexique, présentement au Mexique, pour apprendre d'eux, qui ont eu un sursis de 90 jours? Donc, est-ce que les contre-tarifs étaient une mauvaise idée?
Ben, d'abord, les contre-tarifs ont été suspendus au Canada il y a longtemps. Là. C'est peut-être que ce qui était la plus mauvaise idée, c'est d'avoir suspendu les contre-tarifs. M. Carney a fait des compromis sur les frontières, il a fait des compromis sur les dépenses militaires, il a fait des compromis sur les contre-tarifs, il a aboli la taxe sur les géants du web, qui d'ailleurs le favorise lui-même personnellement parce qu'il est actionnaire des géants du web, ce qui est en soi une situation bien particulière, et tout ça ne lui a rien donné de mieux. Ce que moi, je pense de l'approche de Mme Sheinbaum au Mexique, c'est qu'elle a été plus courageuse, elle s'est tenue debout, plutôt que de piller les Chines facilement, et elle a réussi à obtenir un certain respect avec cette attitude-là.
Donc, vous êtes en accord avec les contre-tarifs?
Je pense que les contre-tarifs auraient dû être maintenus, mais pas des contre-tarifs, comment dire, transversaux. C'est pas comme les Américains disaient, ils ne l'ont pas fait, on va mettre un tarif de temps sur tout. On peut cibler des produits américains qui viennent sur le marché canadien ou qui vont sur le marché européen et imposer des tarifs seulement à ces produits-là, ceux qui vont le moins faire mal à notre propre économie, mais qui vont quand même exercer des pressions sur la Maison-Blanche pour modifier son approche.
Alors, ces contre-tarifs-là là, qui augmentent là, justement là, le fardeau fiscal des contribuables, l'Institut économique de Montréal nous l'a prouvé, ça peut aller jusqu'à 600 $ par année. Le Bloc québécois est en accord avec ça.
Bon. D'abord, l'Institut économique de Montréal est également une organisation très militante et très, très à droite. Ensuite de ça, il y a peu de contre-tarifs au Canada, donc on ne peut pas se palmer là-dessus ou se fâcher là-dessus. Il y en a très, très peu des contre-tarifs au Canada parce que M. Carney a renoncé aux contre-tarifs au Canada. Donc, le calcul sur ce que ça coûte à chaque famille, moi, je peux vous répondre que j'ai aussi fait faire une étude qui établit que ça coûte des milliers de dollars à chaque famille, à chaque année, le changement climatique. Et il y a bien du monde qui aimerait bien ça, qu'on fasse comme si ça n'existait pas, puis qu'on devienne une économie encore plus pétrolière. Alors, étude pour étude, on pourrait en parler longtemps, mais les contre-tarifs ont peu d'impact, parce qu'il y en a à peu près pas qui sont appliqués présentement sur le territoire canadien.
Mais sur la planète, M. Blanchet, il y a deux pays seulement qui ont des contre-tarifs envers les Américains. C'est la Chine et le Canada. Est-ce qu'on est fiers d'être sur le même pied d'égalité dans notre réaction face aux tarifs de Trump, sur le même pied d'égalité que la Chine?
Bon, il n'y a absolument rien en commun entre la relation économique de la Chine avec les États-Unis et celle du Canada avec les États-Unis. Puis on ne peut pas se comporter comme n'importe quel autre pays à travers le monde parce que le pourcentage de notre commerce qui se fait avec les États-Unis, dans le cas du Québec, c'est 75%, là, est tellement élevé que l'approche que la France a prise ou que l'approche que le Brésil a prise ne peut pas s'appliquer chez nous. Notre principal partenaire commercial, il est américain. De la même manière que l'Europe qui dit « OK, on va accepter un tarif de 15% sur tout, puis on va s'engager à faire des investissements puis à acheter des hydrocarbures américains », nous, on ne peut pas faire ça parce que 15% sur, mettons, 12% de leurs exportations, c'est assez peu de choses dans leur économie globalement. Mais chez nous, 15% sur ce qui est 75% de nos exportations, ce serait énorme. Donc, l'approche ne peut pas être la même. La comparaison avec la Chine fonctionne encore moins parce que c'est un conflit commercial et idéologique majeur entre les deux.
Monsieur Blanchet, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin à Boulevard Again ce matin sur les ondes de Boulevard 101 et au plaisir de se reparler prochainement.
Merci.
Au plaisir, merci.
Merci, au revoir. C'était Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Donc,
on manquait de temps, mais moi, j'aurais aimé ça dire, il reste que le Mexique aussi, son plus gros partenaire commercial, c'est les États-Unis. Puis oui. Le Mexique n'applique pas de contre-tarifs.
En plein ça, moi, je suis toujours subjugué de voir que un parti politique qui se dit défendre les intérêts du Québec, défendre les intérêts du contribuable québécois, et pour des contre-tarifs.
Ah oui? Ah oui, c'est...
En crachant sur l'Institut économique de Montréal. C'est comme si les gens à l'Institut économique de Montréal n'avaient pas d'études en finance puis faisaient mal leur travail.
J'ai l'impression d'être face à un parti libéral, mais bleu.
Oui, t'sais, clairement.
Mais bleu, là, au sens esthétique du terme.
T'en reviens encore au
pas
bloc...
au sens esthétique du terme.
T'en reviens au bloc libéral?
Pour de vrai. Et même dans la réponse à la crise du bois d'œuvre.
Ouais.
Et François Blanchet nous dit « La mesure de Mark Carney est adéquate, c'est ce qu'on souhaitait. Il a même pris notre idée. On n'aurait juste pas mis de plafond, mais ouvre le portefeuille des contribuables, aide l'industrie, pallie à un marché qui est en difficulté, donc crée une économie artificielle. C'est parfait. On aurait juste ouvert le portefeuille sans limite, nous autres. C'est ça qu'on aurait fait.
Oui, c'est ça qu'on aurait fait.
Tu niaises-tu?
Alors qu'à la COVID, on a ouvert ce portefeuille-là, puis il y a plein d'argent qui n'est pas revenu. On est en déficit de 13,5 milliards au Québec, puis de 70 milliards au fédéral.
Pour de vrai, là, M. Blanchet, là, si vous nous écoutez toujours, il y a des gens qui ont réellement à cœur les intérêts du Québec, qui sont profondément enracinés dans les valeurs québécoises, dans les intérêts du Québec. Et franchement, quand je vous écoute parler, j'entends un parti libéral, mais avec un soude bleu plutôt qu'un soude rouge.
Bien, c'est pour ça qu'on...
J'entends pas en tout la distinction québécoise.
Bien, c'est pour ça, justement, qu'ils ont perdu, quoi, un 10-12 députés au profit du Parti libéral lors de la dernière élection. C'est parce qu'ils sonnent pareil.
Oui.
Non, pareil.
Ben oui.
Oui, puis... Une des choses que j'ai remarqué aussi, c'est on dit, au final, la seule affaire qu'on critique à Mark Carney, c'est de pas avoir d'entente. C'est vraiment la seule affaire.
Ouais.
On dit, ils ont bien fait dans le bois d'œuvre, bon, ils ont enlevé les contre-tarifs, ils auraient dû les maintenir, mais on n'apporte pas de solution sur comment on aurait pu trouver une entente, comment on aurait pu améliorer nos relations avec les Américains. La seule affaire qu'on dit, c'est, ils nous ont promis qu'il n'allait pas avoir de tarifs, il y a des tarifs, on n'est pas content. Oui, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de différent? Ben, il n'y a pas vraiment de réponse. Sa réponse, c'est qu'il aurait dû mettre davantage de pression. Ben, je l'annonce. Si on avait mis plus de pression, on en aurait encore des tarifs quand même.
Exactement. Et dans les bonnes alternatives, je te fais écouter ma bombe que je t'ai parlé en début d'entrevue. Parce que je pense que c'est le temps, Jacinthe-Ève.
Oui.
Au Québec, on en a beaucoup contre Donald Trump.
Ouais.
On agit énormément avec émotion contre Donald Trump.
Ah ouais.
Puis là, on a pensé à un moment donné que notre industrie du bois d'œuvre était primordiale pour les États-Unis. On a oublié qu'il y avait un marché européen qui attendait juste qu'il y ait une brèche qui s'ouvre pour embarquer dedans à coups de grands bateaux qui descendent d'un port.
Ben oui.
Je te fais écouter un reportage du 24 février sur Radio-Canada, d'accord?
Ouais.
Tu vas entendre dans ce reportage-là, en premier lieu, c'est le PDG de la compagnie Rémabec. Et par la suite, tu vas également entendre notre premier ministre François Legault. Écoute ce qu'ils ont dit le 24 février dernier et je te parle de Rémabec par la suite.
C'est de garder notre bois. 4-5 semaines. Il y a un just-in-time aux États-Unis. Ils n'ont pas les cours bien pleines de bois.
La stratégie est d'affamer le marché américain et de forcer ses clients à absorber la surtaxe.
On ne peut pas payer 14,5%. Plus 25 %, sinon c'est mon banquier qui va devenir président.
Donc, François Legault, qui visitait l'usine de bâtonnets alimentaires John Lewis, n'y voit pas là une trop mauvaise idée.
Hey, vous dites que vous n'avez pas besoin de notre bois. C'est pas vrai. Donc, regardez-nous aller. Si on retient notre bois pendant 4-5 semaines, là, vous allez trouver le train long, M. Trump.
OK. Commentaire de François Legault le 24 février. Commentaire de Régent Paré, le PDG de Rémabec. Puis là, j'ai mis le commentaire de François Legault parce qu'on vient de parler avec François Blanchet, qui est supposément le représentant des intérêts du Québec au niveau de la Chambre des communes à Ottawa,
ouais,
en tant que chef du Bloc québécois. Là, on vient d'entendre notre premier ministre. On a entendu François Blanchet dire « On subventionne, pas de plafond, puis on crée une économie artificielle. » On vient d'entendre François Legault dire « Monsieur Trump, checkez-nous bien aller. On va le garder pour nous autres, notre bois. » Bien, sais-tu ce qui est arrivé à la compagnie Rémabec qui engageait plus de 1000 personnes?
Non.
Ils ont fermé le 4 juin dernier. Ils ont gardé leur bois dans le cours.
Ah,
ils ont pas fait de business.
Ah ouais.
Puis le premier ministre, là, on va vous avoir, M. Trump. Ils ont fermé. C'est 1000 emplois de perdus. Et le premier ministre, tout sourire, disait, « Monsieur Trump, vous pouvez pas vous passer de notre bois d'œuvre. » Comme si au Québec, on était les seuls à exister dans le monde.
François Legault a été mal briefé ou il connaît mal l'industrie du bois. Puis pour un premier ministre québécois, de pas connaître l'industrie du bois quand tu as le Québec à cœur, quand tu représentes les intérêts du Québec, parce qu'ultimement, là, il y a Yves-François Blanchet qui dit qu'il représente les intérêts du Québec à la Chambre des communes. Soit dit en passant, il y a d'autres députés de d'autres formations politiques qui représentent aussi le Québec à la Chambre des communes. Il n'est pas le seul. Mais François Legault représente les citoyens du Québec et une industrie fondamentale pour les régions, notamment du Québec,
ben oui,
c'est le bois d'œuvre, c'est le bois, c'est l'industrie du bois. Et il ne connaissait pas le marché du bois sur la planète. On est où dans cet écosystème-là? Hier, on parlait de l'écosystème. Ben connaître ses compétiteurs, connaître le marché, connaître nos failles, nos lacunes, nos faiblesses, les opportunités. Il a parlé comme un gars qui détenait le monopole mondial.
Exactement.
Il a parlé comme un gars qui savait pas qu'il y a des navires qui partent de l'Europe et qui s'en viennent aux États-Unis, que la qualité du bois européen est la même la canadienne est comparable et que là-bas, ça coûte pas mal moins cher en plus parce qu'ils ont accès à de la main-d'œuvre à bas tarif comparativement à nous où la main-d'œuvre est quand même très chère.
Donc, 1000 emplois de perdus parce qu'on a un premier ministre qui a dit checkez-nous bien aller, Donald Trump, tu vas avoir besoin de notre bois d'œuvre. 1000 emplois de perdus parce qu'on a un premier ministre au Canada qui a mis des contre-tarifs et qui refuse de négocier uniquement le bois d'œuvre avec les Américains parce que ça pourrait se faire. On n'est pas obligé de regarder ça dans la globalité. Ça, Jean-François Champoux nous l'avait bien dit, le PDG de la Syrie Saint-Michel, où l'association, justement, mais tous les gens qui travaillent dans le bois d'œuvre au Canada s'étaient entendus sur une réforme pour demander aux Américains, mais Mark Carney a refusé de livrer ce combat-là sous prétexte qu'il va régler l'ensemble en même temps parce que lui, il sait comment parler à Donald Trump. Alors, et là, on a Yves-François Blanchet qui nous dit, on a juste à subventionner.
Ouais.
Donc, vous voyez, nos dirigeants, où ils nous amènent avec le bois d'œuvre.
Ouais.
Puis après la pause, je vais te parler d'un dirigeant qui nous avait pas amené là.
Ah.
Un certain Stephen Harper.
Ah oui?
Ouais, je vais te faire entendre ça.
OK.
On va parler de ça.
Ben oui, parce que le bois d'œuvre, là, c'est historique, ce dossier-là. Puis c'est un dossier historique.
Exactement.
On en entend parler depuis qu'on est au monde.
Oui.
À tout bout de champ.
C'est possible de régler le bois d'œuvre. Fait qu'on parle de ça après la pause, après que Mathias nous ait fait l'essentiel de l'actualité. Ça te convient?
Oui.
Good. Circulation, Mathias?
Oui, le ralentissement sur le pont Pierre-Laporte commence à se régler, là, de ce que je vois d'accident. Les voies sont toutes réouvertes. Il y a quand même un ralentissement qui a présentement lieu. C'est jusqu'à Avenue des Chutes. Mais une fois que tu traverses sur le pont, là, ça se passe bien.
Vous êtes à Boulevard Again ce matin sur Boulevard 102.1. On revient dans quelques instants. Boulevard Again le matin.